Ensemble, Rhône FM, c'est tout. Rhône FM, ensemble, c'est tout. Santé, conduite, nature, sexuelle, cuisine, sport, télévision, habitat, lecture. Rhône FM, ensemble, ensemble, c'est tout. C'est tout. Muriel Delaize.
L'arrivée d'un enfant est un grand chamboulement dans la vie d'un couple et particulièrement dans la vie d'une femme. Outre le fait que notre corps change, c'est toute une organisation qu'il faut revoir. On est désormais seul à la maison avec notre bébé, du moins la journée. On ne se sent pas forcément tout de suite maman. Il y a de nouveaux gestes à apprendre, une nouvelle responsabilité. Parfois, on n'a pas de parents à qui demander de l'aide. Du coup, cette naissance peut révéler des difficultés, des moments de fragilité et des situations complexes. Cela crée en nous des sentiments qui nous dépassent un petit peu. Parfois, certaines grossesses ont lieu dans un contexte psychosocial difficile. Certaines femmes doivent faire face à un deuil, une rupture affective ou de la violence. Tous ces éléments peuvent déclencher ce qu'on appelle une dépression périnatale. Dans ces cas-là, il est important de ne pas rester seul face à ces difficultés et surtout d'oser en parler. Et c'est ce que nous allons faire ce matin avec nos deux invités. Anne Morard-Dubé, pédopsychiatre, membre de l'association Périnatalité Valais, et Marie-Estelle Schwab, sage-femme conseillère indépendante. Mesdames, bonjour.
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 Bienvenue parmi nous.
Merci. Merci.
Donc, grâce à vous, on va savoir un petit peu plus ce qu'est concrètement la dépression périnatale, comment la déceler et que faire, surtout pour aller mieux. Vous êtes là donc pour nous éclairer et nous conseiller jusqu'à 11h avec Raphaël Métraillé à la réalisation de cette émission. Ensemble, c'est tout. Bonjour et bienvenue.
Mimi. Ensemble, Rhône FM, c'est tout. Rhône FM, ensemble, c'est tout. C'est tout. Ensemble, Rhône FM, ensemble, ensemble, c'est tout.
On va tout d'abord commencer par parler de la périnatalité. Alors qu'est-ce que c'est concrètement? Vous allez dire, si je me trompe, j'ai cherché la définition en préparant cette émission. Et par le terme périnatalité, on dit que c'est une période située entre la 28e semaine de grossesse, qui correspond à environ 6 mois, et le 7e jour de vie après la naissance. Est-ce que c'est juste, Anne Morard-Dubé?
Alors, c'est la définition qui a été donnée par la Société française de médecine périnatale. Mais je dirais qu'en Suisse, je pense que autant de sites d'internet que vous allez consulter, autant vous avez de définitions de la périnatalité. Pour nous, on va le prendre, disons aujourd'hui, quand on va parler au sens large, c'est-à-dire c'est la période qui va être entre le début de la grossesse jusqu'à la dépression, disons 2 ans après l'accouchement.
Ah, ça peut même aller jusqu'à 2 ans après?
Alors, on va dire plus ou moins 18 mois à 2 ans après l'accouchement.
D'accord. Et justement, qu'est-ce qu'on entend maintenant par dépression périnatale?
Alors, je crois que vous avez bien introduit, hein, le moment de la grossesse, c'est un moment de crise. Dans une vie normale, on dit bien Freud qui disait, il y a des moments particuliers dans la vie qui sont le mariage, qui sont l'accouchement, qui sont le décès d'un de ses parents, et que l'arrivée d'un enfant, c'est vraiment un moment de crise particulier, à peu près une crise comme celle de l'adolescence, c'est-à-dire que tous les repères sont bouleversés. Soi-même, on devient maman, c'est-à-dire qu'on passe de rôle de femme au rôle de mère, on pousse sa propre mère au rôle de grand-mère, et son mari qu'on connaît comme mari, on ne sait pas du tout comment il sera comme père. Et que dans tout ça, il va y avoir un aménagement. Alors, quand est-ce qu'on va parler de dépression? C'est quand les émotions se bousculent et qu'on a l'impression qu'on n'arrive plus à faire face. Alors qu'on a tout pour être heureux. Je vous ai amené ce matin un petit nombre de magazines. Tout a l'air rose, tout a l'air beau, tout plein de couleurs. Et puis, en fait, c'est quand les choses ne vont plus bien. Quand une mère commence à dire, ou voir un père, parce que la dépression du périnatal, c'est-à-dire et pendant la grossesse et après la grossesse, concernent aussi bien l'un que l'autre. Alors bien sûr, il y a une plus grande incidence chez les femmes que chez les hommes.
Mais les hommes aussi peuvent faire des dépressions périnatales.
Les hommes peuvent faire des dépressions périnatales. Dans certaines peuplades, on appelle ça la couvade. Et on les provoque. On met un homme dans sa case et il ne doit plus bouger. On lui amène à manger. Enfin, il fait vraiment ce qu'on appelle une couvade.
Alors, quand on parle de baby blues, est-ce que ça correspond à ça ou pas?
Alors, si vous voulez, c'est comme une espèce de gradation. Le baby blues, alors lui, n'est que après l'accouchement, alors que la dépression, c'est déjà avant l'accouchement. Mais le baby blues, c'est ses pleurs, c'est ses moments d'une intensité assez faible qui durent en 2, 3, voire 10 jours. La dépression, c'est quand ça dure plus de 2 semaines. Et puis, avec justement une intensité qui varie.
Alors pourquoi est-ce qu'on peut être sujet à cette dépression, outre ce que vous avez dit tout à l'heure ?
Alors, je dirais qu'il faudrait définir, moi, je pense, trois axes. Il y a un axe, alors, trois vulnérabilités possibles. Une vulnérabilité, c'est quand il y a quelque chose du côté du somatique, c'est-à-dire du côté du corps, soit de la mère, soit du bébé. Le deuxième axe, ce serait la vulnérabilité psychologique de la femme, du couple ou autre. Et le troisième axe, ce serait un axe de la vulnérabilité sociale. Alors si je reprends par exemple la vulnérabilité somatique ou du corps, typiquement quand on annonce à des parents lors d'une échographie qu'un bébé ne va pas bien ou qu'il y a une malformation ou qu'il se passe quelque chose, on voit bien que suivant les parents, ça on pourra jamais enlever des difficultés, mais comment est-ce que ces parents vont réagir, quelles réponses les plus ajustées on peut donner pour éviter cette dépression. Parce que toute personne normale va être triste d'apprendre que son bébé ne va pas bien. Mais comment faire pour que... Quand est-ce que ça peut tourner en dépression? Du côté de l'axe psychologique, ça peut être soit des femmes qui sont sujettes à des antécédents de dépression, c'est celles qui sont le plus sujettes à des dépressions périnatales. Autrement, ça peut être par exemple une adolescente, ça peut être des femmes qui sont dans des histoires par exemple de toxicomanie, mais ça peut être Madame Tout-le-Monde, hein, qui peut, face à l'arrivée d'un bébé, être bouleversée. C'est quand même le moment où on convoque toute l'histoire de sa propre histoire, hein. Comment est-ce qu'on a été enfant, comment est-ce que son mari était enfant, est-ce qu'on va rejouer la même chose? Et puis enfin, quant à la vulnérabilité sociale, on a des gros problèmes sociaux, des problèmes professionnels, comment est-ce qu'on va, par exemple, annoncer, je pensais à un milieu professionnel plutôt élevé, où une femme me disait, mais c'est impossible que j'annonce une grossesse, c'est pas le moment, comme s'il y avait un moment pour annoncer une grossesse.
Alors que faire justement dans toutes ces situations? Quels sont les signes avant-coureurs? À qui s'adresser? Qui peut nous aider? On va répondre à toutes ces questions dans le courant de cette matinée. Et si vous aussi, vous avez des questions à poser à nos deux invités, n'hésitez pas, le standard est ouvert, 027 327 20 30. Ou alors vous pouvez nous envoyer un mail, un courriel à l'adresse direct@ronfm.ch.
Ensemble, Ron FM. Ensemble, c'est tout.
Il est question de dépression périnatale ce matin. On a vu un petit peu tout à l'heure qu'est-ce que c'était concrètement. N'importe quelle femme peut être touchée par cette dépression. Quand on préparait cette émission, vous m'avez dit, Anne Morard-Dubé, qu'il y avait entre 8 et 20% des femmes qui étaient touchées par cette dépression. Mais c'est encore malheureusement un sujet tabou. On parlait tout à l'heure de cette femme qui n'osait pas annoncer sa grossesse à son travail. Ces femmes qui se sentent pas bien n'osent pas le dire parce qu'on est censé être heureux quand il y a une naissance, une grossesse. Et on n'ose pas dire qu'on va pas bien. C'est encore un sujet tabou, hein.
Oui, c'est encore un sujet tabou et comme vous le dites, c'est 8 à 20% des femmes qui sont touchées, ce qui est quand même énorme, hein. C'est pour nous, c'est un vrai problème de prévention, parce que comment aller toucher ces femmes? Et qu'une des choses qui est sûre, c'est que par rapport à ce tabou, en principe, toutes les femmes sont suivies dans leur grossesse par un gynécologue. Je dis bien en principe, parce qu'il y a parfois des femmes qui peuvent échapper au contrôle, et que c'est bien par les gynécologues qu'est la première porte d'entrée, et que c'est aussi... question, comment est-ce que ces gynécologues vont pouvoir dépister chez cette madame tout va bien, cette difficulté? Et souvent les gynécologues, quand ils sont face à ces femmes, ils sentent qu'il y a quelque chose qui va pas, et une des pistes d'entrée, maintenant qu'on est en Valais, c'est les femmes qui ont des difficultés peuvent les envoyer chez la sage-femme conseillère de l'hôpital, où actuellement il y en a 3 à l'hôpital de Sion.
Donc vous, Marie-Estelle Schwab, vous êtes donc sage-femme conseillère. Dans ces moments-là, justement, en quoi vous êtes importante pour ces femmes-là?
Alors nous, effectivement, on reçoit ces femmes qui nous sont envoyées par différentes personnes qui peuvent être les gynécologues, mais aussi parfois des médecins traitants ou des personnes qui accompagnent ces femmes pour d'autres raisons, les assistantes sociales ou même par copine. Maintenant, ça commence un petit peu à fonctionner comme ça puisque ça fait plusieurs années qu'on y travaille. Notre rôle à nous consiste vraiment à une forme d'accompagnement sous forme d'entretien. C'est vraiment, il y a rien de type de contrôle de grossesse ou autre. On fonctionne vraiment pour donner un espace d'échange et de discussion. Et souvent, les femmes viennent avec leur bagage, leur histoire, leur vécu de cette grossesse-ci, des grossesses précédentes. Et elles nous racontent un petit peu leurs histoires. Et c'est à nous un petit peu de saisir les perches qu'elles nous tendent au fur et à mesure du dialogue pour reconnaître ce qu'elles vivent, pouvoir leur donner une place par rapport aux émotions qu'elles expriment. Et puis, en tout cas, saisir les portes qu'elles essayent de nous ouvrir avec leur témoignage. Et à ce moment-là, on regarde avec elles si comment est-ce qu'on peut continuer pour qu'elles se sentent au mieux accompagnées dans ce chemin.
Vous avez un peu un rôle de psychologue aussi quelque part.
Oui et non. C'est vrai qu'on a, on travaille beaucoup sur le côté émotionnel. Ça, c'est sûr que on a une partie de ces compétences-là qui sont mobilisées, mais on n'a pas toutes les compétences qu'a un psychologue ou un pédopsychiatre, c'est certain. Mais ça peut faire une sorte de balance entre rien du tout et puis un pédopsychiatre ou une psychologue qui peut parfois faire peur à Madame Tout-le-Monde parce que c'est quand même une étiquette qui parfois amène certains freins. Voilà.
Donc vous avez vraiment un rôle de conseillère, comme son nom l'indique. Donc l'important, c'est que ces femmes puissent venir vous parler, s'exprimer. Mm-hmm. Et après, vous les dirigez en fonction de ce qu'elles vous disent vers des professionnels.
Exactement, parce qu'il peut se passer des situations où on voit ces patientes très peu de temps, parce qu'elles osent faire le pas de venir nous voir assez tard dans la grossesse, ou à ce moment-là... Notre rôle s'arrête vraiment au moment de l'accouchement et des jours qui suivent en maternité. Donc ça nous arrive de les réorienter si c'est nécessaire avec parfois des pédopsychiatres. Mais ça peut aussi être quelqu'un qui fait juste quelque chose de continu. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas au moment de la naissance comme nous. Parce que notre rôle est vraiment de pouvoir anticiper en prénatal ce qui peut se passer en postnatal. Donc
peut-être rajouter quelque chose, les sages-femmes conseillères, elles sont vraiment là pour assurer la sécurité émotionnelle de l'arrivée du bébé. Donc pour que, comme on disait par rapport aux vulnérabilités, est-ce qu'on a besoin d'une assistante sociale qui va aller s'occuper que ses parents aient un appartement? Est-ce qu'on va aller vers un conseiller conjugal? Est-ce qu'on va aller vers un pédopsychiatre? Elles sont là un petit peu pour faire une espèce de triage, mais où elles vont assurer le lien entre les différents partenaires pour créer un réseau autour de ces femmes.
Alors justement, comment reconnaître la dépression périnatale? Quels sont les signes d'alerte et que faire? On va y répondre dans un petit instant.
Ensemble, Rouen FM. Ensemble, ensemble, c'est tout.
Comment reconnaître la dépression périnatale? Quels sont les signes avant-coureurs pendant la grossesse déjà pour commencer, Marie-Estelle?
Alors, généralement, ce sont souvent des femmes qui viennent et qui se sentent pas forcément bien dans leur corps, qui sont pas très à l'aise dans leur... qui ont souvent des maux et une fatigue un petit peu chronique, qui, au niveau émotionnel, verbalisent facilement un sentiment de culpabilité, une diminution de l'estime de soi, avec parfois des difficultés dans le couple ou dans le relationnel avec la famille. Et puis, une baisse de motivation générale pour un petit peu toutes les tâches quotidiennes. Et souvent vraiment un sommeil perturbé, mais qui, généralement dans le discours, très souvent, elle glisse plein de fois, mais tout va bien, je suis quand même très contente d'être enceinte. Et puis, donc parfois, on est aussi un petit peu biaisé par ce tout va bien qui englobe en même temps un petit peu tous ces mots, parce qu'elle donne bien le change. Et c'est pas toujours évident de pouvoir vraiment s'arrêter avec le paquet d'émotions qui sont plutôt du côté à prendre du temps autour pour vraiment s'arrêter dessus.
Donc ça, c'est pendant la grossesse, et puis après, une fois que le bébé est là, quels sont les signes?
Alors, on reste un petit peu dans les mêmes choses, mais avec... elles se sentent pas mal seules, un sentiment de solitude comme ça, de pas être comprise par son entourage, par le conjoint, parfois, parce que, comme le disait tout à l'heure Anne Morard, on connaît bien le mari, mais on connaît pas forcément le papa qui naît avec le bébé qui vient. Et puis, sentiment de culpabilité, d'honte, de pas savoir bien faire, avoir l'impression de ne pas être à l'auteur avec le bébé... d'être à chaque fois facilement jugée dans les actions qu'elles peuvent avoir avec leurs petits. Pas mal de tristesse, des pleurs. Alors on connaît bien le baby blues, oui, ça, c'est une phase physiologique, mais quand ces symptômes-là durent, et puis que difficulté à se mobiliser, et puis à se motiver pour se lever le matin, se mettre en route, etc.
Et puis comprendre les pleurs de son enfant aussi, oui. Parce que dans les premiers mois, il y a aussi les fameuses coliques. Et là, c'est pas évident, parce qu'on se retrouve un peu démunis, quoi, dépassé, ça c'est un terme qui revient régulièrement, on est dépassé par ce qui se passe.
Oui, tout à fait, ça c'est vraiment quelque chose d'assez courant, et puis on n'est plus dans cet esprit communautaire où on a facilement du monde autour de nous, on se retrouve facilement seul. Et puis décoder les pleurs d'un bébé, c'est pas quelques jours, c'est souvent quelques semaines voire quelques mois pour bien comprendre.
Anne, vous vouliez ajouter quelque
chose?
Oui,
je voulais ajouter que souvent ce qui se passe, c'est que les premières semaines, ces femmes-là qui ont eu beaucoup de consultations auparavant, elles n'en ont plus, et que les premiers symptômes, parfois c'est pas les femmes qui les manifestent, mais c'est les bébés, et c'est à travers les bébés, c'est-à-dire que c'est justement les coliques, les pleurs, ou un enfant trop calme, un enfant en retrait, et que c'est souvent le pédiatre qui va être celui qui va poser le diagnostic ou qui va suspecter un diagnostic de dépression postpartum chez une femme. Et que c'est dans la période avant, c'est les gynécologues, et après c'est les pédiatres qui doivent, ou le gynécologue au contrôle du postpartum, qui doivent être particulièrement attentifs.
Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, ces femmes, quand elles sentent qu'elles vont pas bien, puis qu'elles se décident enfin à aller en parler? À qui elles doivent s'adresser, en premier lieu?
Alors déjà, rechercher autour d'elles quelle est la personne de confiance, hein, parce que parfois elles ont un bon contact avec leur gynécologue, même si on est en postnatal, il peut tout à fait avoir une oreille attentive, ça peut être le pédiatre, ça peut être le médecin traitant, on en parle peu, mais c'est souvent des personnes de référence. Et puis, pas forcément d'emblée aller dans quelque chose de psychologique, on peut aussi s'adresser par exemple au CIPE, au planning familial, où il y a des conseillères qui peuvent faire un suivi sur une année vraiment à distance de la naissance, et qui sont des personnes ressources, qui ont des compétences tout à fait efficaces pour reconnaître ce côté émotionnel, et puis qui peuvent elles-mêmes aussi réorienter si c'est nécessaire.
Mais peut-être que ces femmes-là se disent qu'elles n'ont pas les moyens de contacter ces gens, alors c'est peut-être pour ça qu'elles ne font rien. Comment ça se passe à ce niveau-là?
Je dirais qu'au moment où une femme sort de la maternité, maintenant on met toujours une sage-femme indépendante qui va à domicile. Et c'est vraiment le travail de la sage-femme indépendante de pouvoir parler avec ces femmes et de voir s'il y a possibilité d'une ouverture ou bien pas. Et puis ces femmes-là ont la possibilité de voir une infirmière du centre médico-social pour leur bébé. La difficulté, c'est que ces femmes-là sont pas du tout obligées. Enfin, personne n'est obligé de voir quelqu'un. Donc effectivement, le risque et le pic d'incidence de la dépression du postpartum, c'est à 8 mois. C'est à 8 mois qu'on a à peu près entre 8 et 12% de dépression du postpartum. Donc on voit bien, c'est au moment où il n'y a plus personne autour d'elle.
Est-ce que vous auriez des petits conseils pratiques à donner à ces femmes à la maison, avant ou après qu'elles aient vu un médecin traitant, un pédopsychiatre, je sais pas, des petits exercices qu'elles pourraient faire pour se détendre ou pour aller mieux?
Je dirais surtout, c'est de ne pas rester seule. C'est de, par exemple, aller au lieu comme Trois Pommes, à Sion. On a un autre sur Sierre et un autre sur Montée. C'est de voir un petit peu. C'est surtout de s'appuyer sur son entourage. C'est-à-dire, s'il faut pas, c'est dans ces moments-là qu'il faut déranger la copine en disant, j'en peux plus, est-ce que tu peux me prendre mon petit 2 heures de temps, voire même l'aide familiale. Moi, je propose très souvent une aide familiale. C'est vraiment un moment où elles peuvent s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour prendre juste un peu de temps pour elles.
Ouais, c'est important de garder un petit peu de temps pour soi.
Mais même si c'est pour aller chez le coiffeur, même pour aller faire n'importe quoi, pour se faire plaisir.
Il ne faut pas culpabiliser de laisser son enfant, même s'il est tout petit, ne serait-ce qu'une heure ou deux, à quelqu'un.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est ce qu'il faut retenir. On va dans un instant parler avec vous de l'association Périnatalité Valais. Il y a également une conférence débat qui va avoir lieu tout bientôt. Ce sera donc dans un instant.
Ensemble, Rouen FM. Ensemble, c'est tout.
Il existe une association Périnatalité Valais. Alors, présentez-nous un petit peu cette association en deux mots, Anne-Maurard Dubé. Quel est son but, ses activités, quand, comment elle a été créée?
Alors, l'association a été créée il y a une année par un collègue et moi-même qui avions déjà travaillé dans le domaine de la périnatalité, c'est-à-dire que depuis 2004, sous l'impulsion du docteur Éric Bonvin, qui à ce moment-là était directeur des institutions psychiatriques, il m'avait proposé de réunir tous les acteurs de la périnatalité, qu'ils soient intra-hospitaliers ou extra-hospitaliers. Et l'idée, c'était vraiment de soutenir le développement harmonieux de l'enfant et de sa famille, et de voir comment on pouvait travailler tous ensemble. Alors, pour des raisons X, Y, voilà, nous avons décidé de sortir l'association de toute implication, que ce soit le CIP, que ce soit l'hôpital, le réseau Santé Valais, et d'en faire quelque chose de neutre. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Association Périnatalité, où nous sommes actuellement une quinzaine à travailler et que cette journée que nous avons, enfin la journée pour les professionnels qui aura lieu la semaine prochaine, est en fait la quatrième journée. C'est la première de l'association, mais ça fait déjà trois fois. Le but étant de réunir tous les professionnels de la périnatalité. Et puis alors les
activités alors.
Les activités, c'est par exemple, on aimerait faire un listing d'adresses de gens qui sont concernés par la périnatalité. On aimerait faire un site internet qui fonctionne un peu mieux qu'aujourd'hui, où tant les parents que les professionnels puissent aller chercher quelque chose, des supervisions et enfin des formations pour les professionnels.
Il y a donc une conférence qui va avoir lieu, une conférence débat sur la dépression périnatale, donc mercredi 19, la semaine prochaine, à 20h à l'auditoire de l'hôpital de Sion, par la doctoresse Nathalie Nanzer. Donc celle-ci, elle concerne les parents, et il y en aura une autre le lendemain, le 20, toujours au même endroit, qui concerne cette fois-ci les professionnels, c'est juste. Hein?
Oui, c'est juste à dire qu'on cherche justement à toucher autant le grand public par une conférence tout public qui est libre, gratuite, et le lendemain, une journée de travail pour les professionnels.
Donc il ne faut pas hésiter à aller écouter cette conférence et en apprendre un peu plus sur cette dépression périnatale. Dans un instant, on arrive gentiment au terme de cette émission, hein, on va répondre à une petite question que nous a envoyée notre chère Martine en concernant la dépression justement qui peut arriver ou perdurer presque 2 ans après la naissance. Ce sera juste après Linkin Park.
Ensemble, Rouen FM. Ensemble, ensemble, c'est tout.
Nous avons 2 questions qui nous sont parvenues, mesdames. Tout d'abord, Martine qui nous écoute depuis son lit tranquillement, qui aimerait en savoir un petit peu plus sur la dépression qui peut arriver presque 2 ans après la naissance. Anne Morard.
Oui, alors en fait, quand une mère est déprimée, il y a le fait qu'elle-même est touchée, mais il y a aussi le fait que quand elle est déprimée, l'interaction avec le bébé est touchée. Et ce qui se passe après plusieurs mois, c'est que la mère commence à perdre confiance dans ses capacités maternelles. Donc ça veut dire que non seulement elle est touchée elle-même dans son estime de soi, mais aussi dans ses compétences maternelles. Et ça devient une espèce de cercle vicieux, cette impression que... On voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas, mais c'est l'impression qu'on n'arrive pas à rattraper quelque chose du lien avec le bébé, puis avec l'enfant. Et c'est souvent des enfants qui se mettent en opposition, qui sont un peu agités, qui ont des troubles du sommeil, ou comme on disait tout à l'heure, des coliques. Et c'est ça qui fait que la dépression perdure, si elle n'est pas prise en charge.
Alors, que faire ? La même chose qu'avant ?
Et la même chose qu'avant, consulter. Souvent, c'est des gens qui arrivent à leur lâcher le pédopsychiatre pour les symptômes du bébé. Parce que justement, c'est des troubles du sommeil ou des troubles alimentaires.
Mais ça a un lien aussi, ça se répercute sur nous, en tant que femmes.
Voilà. Donc c'est vraiment l'un vers l'autre, l'autre vers l'un. C'est vraiment le cercle qui tourne.
Et on a également Mélanie qui nous a envoyé un mail, elle nous dit ceci. Je suis enceinte de mon 2e enfant, j'ai fait une dépression postpartum pour mon 1er, ai-je plus de risques d'en faire une 2e ? Je n'ai pas vraiment été suivie la première fois. Merci de votre réponse.
Alors là, si vous voulez, quand tout à l'heure je vous parlais des vulnérabilités, on sait que la dépression dans une première grossesse est un risque de vulnérabilité pour la seconde grossesse. Maintenant, tout va dépendre du temps d'attente entre les 2 grossesses. S'il y a plus de 4 ans d'attente entre les 2 grossesses, ça c'est les statistiques, hein. On est toujours là pour fausser les statistiques, hein. Il faut rassurer Mélanie, mais que la meilleure des choses qu'on pourrait proposer à Mélanie, c'est vraiment d'aller voir l'un de mes collègues pour parler de ça, parce que le fait même d'en parler va permettre des fois, avec des moyens extrêmement simples, avec très peu de choses, de pouvoir anticiper sur la dépression du postpartum qu'elle a dû vivre auparavant. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'il y a un plus grand risque, entre guillemets.
Vous avez également apporté des livres avec vous qui peuvent être utiles à toutes les personnes qui nous écoutent. Dites-nous en 2 mots.
Alors, je pourrais proposer le livre du docteur Nathalie Nanzer, qui s'appelle La dépression postnatale, qui a écrit vraiment un livre tout venant, et à la fin du livre, il y a un questionnaire qui permet, très bêtement, c'est un questionnaire d'Édimbourg, de voir qui est déprimé, qui ne l'est pas, et surtout, elle parle de la dépression des papas. Et puis, on m'a proposé un roman de Pascal Kramer, L'implacable brutalité du réveil, qui vient de sortir aux éditions Mercure de France.
Un autre livre ou c'était surtout ces deux-là ?
Alors le 3e livre, alors qui est plus peut-être pour les professionnels, dans les préventions précoces, de Françoise Molena, Petit traité pour construire des liens humains.
Et vous lisiez là, il y a deux secondes, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais les papas donc aussi, on le rappelle, hein, peuvent se sentir déprimés à l'arrivée de l'enfant. Donc eux aussi, il ne faut pas non plus qu'ils hésitent à aller en parler. C'est toujours un peu plus difficile hein, pour les hommes, ils ont toujours de la peine à oser parler de leurs soucis, mais il ne faut vraiment pas qu'ils hésitent. On a encore un tout petit peu de temps. En deux mots, quel est le message que vous aimeriez transmettre maintenant? Un mot pour conclure cette émission.
Alors c'est vraiment que si 8 à 20% des femmes sont encore à risque de dépression périnatale, pour moi c'est un vrai problème de santé publique. Et d'autant plus ici en Valais, où les consultations avec les sages-femmes conseillères ne sont possibles que si vous avez un problème. Il n'y a encore pas de consultation possible pour toutes personne normale. Alors bien sûr qu'il y a le CIP qui est un accueil, mais c'est vraiment de pouvoir nous donner des moyens pour prévenir les troubles, parce que sinon il y a des risques et pour la mère et pour le couple et pour l'enfant.
Marie-Estelle, un dernier mot?
Oui, je crois que ça va dans le même sens de ce que dit Anne, c'est-à-dire que maintenant notre travail est plutôt de sensibiliser le monde politique pour pouvoir débloquer des fonds, pour aider à travailler ce côté prévention autour des familles qui sont touchées par cette problématique.
Je rappelle qu'il y a une conférence, débat tout public, la dépression périnatale, qui aura lieu mercredi prochain, le 19 septembre à 20h, à l'auditoire hôpital de Sion, par la doctoresse Nathalie Nanzer. Celle-ci s'adresse aux parents. Le lendemain, ce sera pour les professionnels. N'hésitez pas à y aller pour en savoir plus. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Marie-Estelle Schwab, vous êtes donc sage-femme conseillère, et Anne Morard-Dubé, pédopsychiatre. Merci beaucoup à vous deux et à bientôt.
Et merci de votre invitation.
Ensemble, c'est tout. 10h-11h.